de se faire entendre quand même un peu. Donc, pour ce jour de Pâques, je vous propose deux lectures. La première se situe dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, et la deuxième dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Alors déjà, dans le livre de l'Exode, les versets 10 à 22, mais j'en coupe quelques-uns au passage. Ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur 1 coudée et demie et sa hauteur 1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur 1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras d'or battu. Un chérubin à 1 des extrémités et un chérubin à 1 autre extrémité. Vous ferez les chérubins 1 seule pièce avec les 2 extrémités du propitiatoire. Les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage et je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et ensuite, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à me détacher de l'Évangile de Jean pour Pâques. Mais bon, j'arrive toujours à y trouver des choses nouvelles, donc c'est quelque chose qui me nourrit en tout cas. Le premier jour de la semaine, Marie et Madeleine viennent au tombeau, le matin. Les ténèbres sont encore là et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où il l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortent donc pour venir au tombeau. Ils courent tous deux ensemble. Mais l'un des disciples court plus vite que Pierre et arrive en premier au tombeau. Il se baisse, il voit les bandelettes qui gisent là. Pourtant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était enroulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé en premier au tombeau, entre aussi. Il voit et il croit. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournent donc chez eux. Marie se tient dehors, près du tombeau. Elle pleure. Tout en pleurant, elle se baisse pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges, vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourne. Elle voit Jésus debout, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. « Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. » Nos cantiques sont parfois assez étranges, et celui-là particulièrement, puisqu'il commence ainsi « Jésus sort de la tombe ». Pourtant, j'en suis persuadée, la résurrection ne se dit pas à partir de là. D'ailleurs, aucun évangile, aucun texte biblique ne s'est risqué à nous décrire l'instant où Jésus serait sorti de la tombe, tout simplement parce que la résurrection, c'est bien autre chose. Le Christ ressuscité n'a rien à voir avec une sorte de zombie à la manière de Michael Jackson dans Thriller. Et d'ailleurs, il est très différent du Jésus terrestre. Ça se voit bien puisque, de toute façon, à la première rencontre, personne ne va le reconnaître d'emblée. Certes, la résurrection est à comprendre à partir de sa vie, de son enseignement, de sa mort, mais ressusciter n'est jamais un retour à un état précédent. Alors on va essayer de voir un peu ce que c'est que cette résurrection aujourd'hui, et c'est assez complexe, et je pense que nous n'aurons pas une réponse claire et limpide, mais peut-être que c'est une chance, ça nous invite à continuer à chercher. Et je voudrais parler de la résurrection en commençant par Lazare. Vous savez, cet homme que Jésus, il nous est dit, et on nous a répété ça souvent au cours de nos catéchismes, que Jésus l'avait ressuscité. Mais en fait, Lazare, sa résurrection n'est pas une résurrection. C'est une sorte de réanimation. Alors, il était certainement très mal en point, peut-être même mort, mais là n'est pas la question. Mais en tout cas, quand Lazare revient à la vie, il reprend sa vie courante, et puis voilà. Et puis certainement, eh bien, quelques années plus tard, il sera plus âgé, eh bien, il va mourir. Alors finalement, la résurrection de Lazare n'est pas une résurrection. C'est un récit miraculeux qui nous parle de la puissance de vie du Christ, mais c'est tout autre chose qu'une résurrection. Alors qu'est-ce que c'est que cette résurrection ? Ce que nous annonçons chaque dimanche, parce que chaque dimanche nous fêtons Pâques, évidemment un peu plus aujourd'hui, mais bon, chaque dimanche nous fêtons Pâques. Pour comprendre ce que c'est que la résurrection, eh bien, il faut faire un peu de grec. Alors, ce n'est pas uniquement pour étaler mes connaissances assez petites en grec que je voudrais qu'on essaye de voir ensemble, parce que le verbe ressusciter, en réalité, dans la Bible, il n'existe pas. C'est-à-dire dans le texte original, qui est le texte grec du Nouveau Testament, ce verbe n'existe pas. Les deux verbes pour dire la résurrection, c'est s'éveiller ou se relever. Et d'ailleurs, en général, ils sont employés au passif, c'est-à-dire être réveillé ou être relevé. Parce que, évidemment, ce n'est pas tout seul qu'on arrive à se réveiller et ce n'est pas tout seul qu'on arrive à se relever. Il y a bien l'agir de Dieu derrière cela. Ainsi, déjà, cela nous oriente un peu différemment. Se réveiller, se relever, cela nous dit aussi que tout au long de notre vie, nous sommes invités à ressusciter, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous en avons fait l'expérience souvent, alors plus on avance en âge et plus on en fait l'expérience douloureuse, l'expérience où nous sommes parfois plus bas que terre et nous avons en effet besoin d'être relevés pour continuer à avancer. La résurrection, c'est certainement pour l'au-delà, pour après. Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour aujourd'hui et pour maintenant. C'est cette nouvelle qui nous secoue. C'est cette force que Dieu nous donne qui nous permet de nous relever, de nous secouer, de nous réveiller. La résurrection, c'est déjà cela, aujourd'hui et maintenant. Et d'ailleurs, dans notre passage de l'Évangile de Jean, il est assez peu question de ce verbe « ressusciter ». On ne nous dit tout simplement, après que le disciple que Jésus aimait soit entré dans le tombeau et n'ait bu pas grand-chose d'ailleurs, on nous dit tout simplement, en effet, ils n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle ils devaient se relever d'entre les morts. Mais en réalité, la mort ici, c'est plutôt une sorte, est comparée à une sorte de sommeil. Ainsi, ces petites pointes, ces petites choses qui se meurent, ces grandes choses qui se passent dans nos vies, qui font que, eh bien, nous sentons cette puissance qui nous invite à continuer à aller de l'avant, à nous relever, eh bien, ce sont les prémices et les promesses de ce qu'il peut y avoir après et dont il ne nous est rien dit. Nous n'avons juste que cela, les prémices et les promesses. Alors, le langage religieux a évidemment, du coup, occulté le sens de la résurrection, ne se cantonnant à ne percevoir dans la résurrection qu'un acte prodigieux. Pourtant, la résurrection, dans tous les textes bibliques, quels que soient les évangiles, dans un premier temps, ne se dit pas à partir de l'apparition du Christ, mais elle se dit à partir d'un vide, d'une béance, du tombeau vide. Et d'ailleurs, ici, et c'est extraordinaire et étonnant, ce disciple que Jésus aime, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le tombeau et qu'est-ce qu'il voit? Rien. Des bandelettes, un linge, mais rien d'autre. Il constate que le tombeau est vide et pourtant, on nous dit, il voit et il croit. C'est donc lui, le disciple que Jésus aime, qui entre dans le tombeau et qui voit et qui croit. Il croit, mais pourtant, il ne va rien dire. Donc finalement, si on en était resté à ce seul disciple, eh bien, nous ne serions probablement pas là, ici, réunis pour fêter Pâques. Il reste dans le mutisme. Que croit le disciple? Quelle est l'origine de sa foi? Eh bien, nous n'en savons rien. Et c'est peut-être une chance, je dirais. Parce que la foi, cette expérience, eh bien, elle est unique, elle est personnelle. Et l'expérience de l'autre, eh bien, et c'est quelque chose qui peut m'être raconté, qui peut me toucher. Mais ce qui est important, c'est mon expérience avant tout. L'expérience personnelle que nous pouvons faire de cette rencontre de la foi. C'était peut-être une chance parce que cela nous oriente. Peut-être que ce n'est pas tant, la question n'est pas tant que qu'est-ce que la résurrection ? Que la question du sens de cette résurrection. Et dès le début du texte, il y a quelques indices qui sont semés. Certes, cela nous parle de la vie plus forte que la mort, la vie au travers de la mort, mais également de cette vie qui est plus forte que toutes les forces qui nous assaillent et qui nous mettent plus bas que terre. Le message de Pâques, donc, c'est déjà pour aujourd'hui, maintenant. Et dans notre monde où tout s'écroule, où tout semble s'écrouler, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Pâques nous dit que malgré tout, contre tout, il faut croire, il faut espérer, il faut se réveiller, qu'une force d'amour peut nous relever. Parce qu'il s'agit bien de cela, d'amour. Je ne sais pas ce que voit et ce que croit exactement ce disciple. Et ce disciple, d'ailleurs, on sait peu de choses de lui. Alors, la tradition l'a assimilé à Jean, mais en fait, on ne sait rien de lui. On ne sait qu'une chose de lui, c'est que Jésus l'aime. Et ça, c'est à mon avis essentiel. On ne connaît ni son âge, ni son origine, rien de lui, ni son nom, rien. Eh bien, pourtant, on sait cette chose essentielle, il est aimé. Et être aimé, c'est probablement ce qui lui permet de croire. Cet amour qu'il a reçu, cet amour qu'il a partagé, eh bien, lui permet d'affronter la mort et de croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour ne disparaît jamais. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Et pour le lecteur de la Bible, le lecteur amoureux de la Bible, connaît bien évidemment le livre du Cantique des Cantiques, magnifique livre où le bien-aimé et la bien-aimée se cherchent, se chantent, poème magnifique. Eh bien, cela se passe ici, dans un jardin, comme dans le Cantique des Cantiques. Et là aussi, eh bien, comme dans le Cantique des Cantiques, eh bien, on se cherche, mais on ne se rencontre pas vraiment. parce que c'est probablement dans la quête, dans la recherche, que tout se joue. L'amour, c'est cela, c'est être capable de continuer à chercher, de continuer à aimer, malgré tout et contre tout. Cela évite, entre autres, à mon avis, ce qui est le plus déplorable, c'est d'enfermer l'autre, l'être aimé, dans quelque chose qui le priverait de liberté. Eh bien oui, ici, à travers la figure du disciple bien-aimé, qui nous renvoie à la figure du bien-aimé et de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, on peut comprendre que l'amour est une quête. Mais l'amour ne permet jamais de dire « enfin, je suis arrivé ». On n'est jamais arrivé. Il faut continuer à chercher, continuer à aimer. Et puis l'amour, comme dans le Cantique des Cantiques et comme ici, nécessite une distance indispensable. Et je reviendrai sur la nécessité de cette distance. C'est cette distance qui permet le croire, de croire à partir de la folie de ce tombeau vide. Et c'est aussi l'amour. L'amour qui est le moteur de cette femme, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, suivant les traductions. Elle est en mouvement. Elle l'aime aussi. Elle le cherche. Il n'est pas là. Mais elle a une attitude bien différente de celle du disciple. Mais nous avons tous des attitudes différentes face au désarroi qui arrive dans nos vies. Mais c'est l'amour aussi qui met en mouvement Marie. Malgré l'amour, elle ne peut admettre le manque. Elle veut conduire son deuil jusqu'au bout, dans cette quête obstinée de la dépouille de celui qu'elle aimait. Et c'est son initiative solitaire qui souligne à la fois l'amour qui l'anime et aussi la quête qu'elle poursuit. Parce qu'il s'agit bien aussi, là, de quête. Même la mort et la crucifixion n'ont pas altéré l'affection, le dévouement qu'elle a pour son Seigneur. Marie reste là, seule. Elle pleure, elle est atterrée. Et dans le jardin, pour l'heure, elle est encore dans le chaos. Ainsi, elle raisonne selon les règles du possible, du vraisemblable. Elle cherche le corps. Qui a emporté ce corps? Elle se questionne avec les questions que nous avons, très rationnelles. Et pourtant, elle va être déplacée. Elle va être déplacée en premier lorsque, enfin, elle a le courage, elle aussi, de regarder dans le tombeau. Mais le tombeau, là, n'est plus vraiment vide. Il y a, nous dit-on, deux anges. Alors, ces anges, qui sont-ils? Là aussi, eh oui, il faut faire un détour un peu par le grec, voire par l'hébreu, mais je vais me contenter du grec. Les anges dans la Bible, eh bien, ce ne sont pas forcément ces êtres ailés, magnifiques et surnaturels dont nous avons les images plein la tête. Ce sont avant tout des messagers de Dieu. Ça peut être d'ailleurs parfois des hommes. Dans l'Ancien Testament, par exemple, dans la Genèse, on ne sait pas trop qui ils sont. Et là, il y a deux anges. Alors, on nous dit qu'ils sont vêtus de blanc. Alors, on les imagine blancs avec des ailes. Mais en réalité, ils ne sont que les porte-parole de Dieu. Ils questionnent Marie pour la faire avancer. Là aussi, c'est intéressant. Ce qui nous fait avancer dans nos vies, ce n'est non pas les vérités qu'on nous assène, mais bien les questions qu'on nous pose. Et ça, c'est important aussi. On est toujours dans ce mouvement de la quête. C'est à nous de trouver. On ne va pas nous donner la solution toute faite, jamais. C'est à nous de continuer. Les anges, ainsi, questionnent Marie. Mais je voudrais faire un rapprochement entre ces anges et ce texte tout à l'heure que je vous ai lu dans le livre de l'Exode. Parce qu'en fait, si on a des images des anges comme des êtres ailés, eh bien c'est aussi parce qu'il y a un télescopage avec de nombreuses figures de l'Orient ancien et entre autres ces kéruvim que l'on a traduit par chérubins. Ces chérubins qui, eux, eh bien, sont là, vont entourer eh bien, les tables, l'arche et les tables de la loi. Et puis, on va les retrouver aussi, ces chérubins, dans le temple de Jérusalem, grand, très grand, je crois que c'est 10 ou 50 mètres, je ne sais plus, mais enfin, ils sont extrêmement grands, et là, ils encadrent le Saint des Saints. En fait, ces anges, ils encadrent, eh bien, la présence de Dieu. En quelque sorte, ils nous empêchent d'avoir un accès direct à la présence de Dieu. Cela peut paraître étrange, le rôle de ces anges. Eh bien pourtant, ils ont aussi ce rôle de nous maintenir à distance. Ces kéruvim, eh bien, maintiennent à distance. Dieu parle entre eux, mais Dieu ne parle, tout le monde n'a pas accès à cela. Et c'est probablement quelque chose de très important et que l'on peut garder. Alors, l'étape de la loi, seul Moïse pourra y avoir accès. Sinon, c'est la nuée qui nous montre la présence de Dieu et qui maintient le peuple à distance. Et puis, dans le Saint des Saints, personne ne peut entrer, à part quelques élus triés sur le volet. Ainsi, on ne peut pas approcher de Dieu. On peut l'entendre, mais il y a une distance salutaire entre l'homme et Dieu. Cette distance, à mon avis, est absolument salutaire. Elle est l'espace de liberté que Dieu nous offre. C'est l'espace là, dès le départ, dès la création, Dieu nous permet la liberté. Il nous tient en quelque sorte aussi à distance, il nous permet la liberté. C'est paradoxal, mais cette distance, en fait, est essentielle, salutaire. C'est elle qui nous coupe du désir d'enfermer Dieu dans nos images. En fait, elle nous coupe du désir de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement se prosterner devant des statues. Non, on peut même idolâtrer un Dieu que nous croyons vrai, que nous pensons détenir. Nous pensons détenir la vérité sur lui. Eh bien non, c'est cette distance qui nous dit que Dieu nous échappe. Il nous échappera toujours. C'est cette distance aussi indispensable entre les êtres humains. Car nous ne pouvons pas avoir la mainmise sur l'autre. La distance entre l'homme et Dieu est indispensable. Et la distance entre les êtres humains est indispensable aussi. Que ce soit dans les relations de tous les jours, que ce soit dans la relation amoureuse, eh bien la distance est nécessaire, indispensable. Elle est indispensable aussi dans la relation entre les parents et les enfants. Je dis ça parce que tout à l'heure, après le culte, je vais célébrer un baptême. Et je pense que c'est probablement une des choses essentielles à dire aux parents. Cette distance nécessaire. L'autre n'est pas moi. Il est différent et il m'échappe. Et l'acte vraiment d'amour, c'est d'accepter cela. Ainsi, on peut faire le lien entre ces chérubins et les anges du tombeau. Ils encadrent la présence d'un corps disparu. Mais au contraire des chérubins, ils n'encadrent pas la présence divine, mais l'absence qui se profile. Et puis, ils nous disent combien cette absence n'est pas un vide béant, mais au contraire, un moteur pour continuer. Parce que c'est en constatant cette absence, en faisant l'expérience dans sa chair, expérience douloureuse, que Marie va pouvoir tout de même se relever et tourner le dos au tombeau, c'est-à-dire tourner le dos à la mort. Elle va être capable de voir ce jardinier, d'entendre son appel, Marie. Et lorsqu'il l'appelle, elle va reconnaître en lui le Christ ressuscité. Christ, comme je le disais, bien différent certainement du Jésus terrestre, puisque personne n'est capable de le reconnaître directement. Mais le récit continue dans un dialogue assez étonnant. Il existe une corrélation, à mon avis, très forte entre la présence de ces anges et la suite de notre récit. Quand Jésus dit à Marie « Ne me touche pas », elle ne doit avoir qu'une seule envie, c'est soit l'accueillir dans ses bras, soit se jeter dans ses bras, mais en tout cas, elle est tellement dans la joie probablement qu'elle a envie de l'étreindre. Et lui la met à distance. Tout comme nous sommes tenus à distance de Dieu, lui aussi la met à distance. Il la met à distance pour qu'elle puisse vivre aussi. Elle ne peut pas se l'approprier et lui dit simplement l'essentiel, qu'il va vers son Père qui est notre Père. Il lui dit l'essentiel qu'à travers lui, à travers sa présence, à travers son existence, eh bien désormais nous pouvons dire à Dieu notre Père, que désormais il y a une place pour nous auprès de Dieu. « Ne me touche pas », lui dit-il. « Ce ne me touche pas si bien représenté par les peintres. » D'ailleurs, les peintres n'ont jamais, ou alors ils sont très mauvais en général, représenté vraiment Jésus sortant du tombeau triomphant. Mais combien ils ont pu représenter cet instant peut-être essentiel qui nous dit aussi la résurrection, ce « ne me touche pas ». Ne me touche pas qui dit la distance nécessaire, qui nous renvoie aussi à la séparation vitale de la création. La création, au début, Dieu a séparé le jour et la nuit afin qu'il n'y ait pas le chaos. Eh bien, en effet, il faut être parfois à bonne distance de l'autre pour que le chaos n'intervienne pas. Et puis, ce « ne me touche pas » est une injonction qui peut aussi nous rappeler l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance, puisqu'il s'agit aussi d'un jardin. Interdiction de manger qui est aussi une interdiction de posséder sans limite, de posséder l'autre et de posséder Dieu. Eh bien oui, cette distance nous interdit de croire que nous pouvons posséder les autres. Ne me touche pas, comme pour créer un lien qui soit porteur de sens. Et oui, c'est paradoxal, c'est peut-être la bonne distance exigée qui est là, qui va créer le lien le plus fort, le plus fécond possible. Toucher, c'est s'approprier par le contact. C'est aussi vrai entre les humains qu'entre l'homme et Dieu. La distance est la condition de la construction d'un lien précieux. C'est paradoxal, mais il faut peut-être faire une distinction entre le but et le moyen. Évidemment que le but, c'est bien la rencontre, c'est bien la proximité avec Dieu, la proximité avec le Christ. Mais pour que ce but soit atteint, eh bien, il y a un moyen. Et le moyen pour que cette rencontre soit vivifiante, c'est justement la distance qui va nous couper du risque d'idolâtrie, qui menace tous les élans religieux. Et aujourd'hui, on peut l'entendre. Oh combien dans notre monde. Et nous sommes invités à regarder aussi la manière dont nous croyons, la manière dont nous mettons en œuvre notre foi pour voir si nous non plus, nous ne tombons pas dans une sorte d'idolâtrie. La distance, c'est l'espace de liberté qui nous est offert et qui également nous coupe toute tentation d'enfermer le Christ dans des images toutes faites, de le faire à notre image. À notre image. Ne me touche pas, nous invite à nous interroger sur la bonne distance entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, entre nous et l'autre. Ne me touche pas. Lui, le Christ, la parole incarnée, ne peut en aucun cas être contenu ou être enfermé. Et nous sommes donc ainsi tous ensemble projetés dans une dynamique vivante, en rupture avec toutes nos tentations de nous retourner à nouveau vers le passé, vers le tombeau, vers la mort. En rupture avec nos désirs de possession, en rupture avec toutes les morts pour l'accueillir, lui qui est la vie. Alors, les anges ont disparu. Pourtant, il nous est dit tout à la fin, Marie-Madeleine va annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Marie annonce. Angelousa dans le texte grec. Elle devient ainsi la première messagère de la résurrection, sorte d'ange, porteuse de bonnes nouvelles. Son annonce retentit encore, et nous sommes invités, nous aussi, à mettre nos pas dans ses pas pour annoncer, devenir en quelque sorte des anges. Elle nous invite à nous mettre en marche, à saluer la vie, à devenir ainsi des porteurs d'espérance. C'est cela, croire en la résurrection et la vie. Tourner le dos au tombeau, sortir du jardin et se tourner résolument vers les autres, se tourner résolument vers la vie. Désormais, c'est cela la bonne nouvelle de Pâques. Nous ne sommes plus menacés de mort, mais nous sommes menacés de foi, d'espérance et d'amour.